Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées et puisque nous sommes vendredi, le week-end approche, on va pouvoir se rassasier de sommeil. Mais pourquoi est-ce que c'est si bon pour le moral et pour la santé, Jacques ?
Grâce au progrès de la connaissance du cerveau, les scientifiques peuvent aujourd'hui l'expliquer. C'est l'objet du dossier du dernier numéro de Books. D'abord, l'absence apparente d'activité cérébrale dans le sommeil profond ne reflèterait pas une sorte d'hibernation ou de déconnexion du cerveau, mais, comme l'affirme Matthew Walker, une des manifestations les plus épiques de la collaboration neuronale. Par une étonnante opération d'auto-organisation, des milliers de cellules cérébrales décident de s'unir pour chanter ou faire feu en cadence. Le professeur de psychologie et de neurosciences à Berkeley a publié un livre à la découverte sous le titre « Pourquoi nous dormons, le pouvoir du sommeil et des rêves ». Il revient sur la différence entre sommeil profond et sommeil paradoxal, car au cours de ce dernier cycle, l'activité du cerveau est proche de celle de l'état éveillé. C'est là qu'interviennent les rêves, mais aussi, par la richesse des connexions neuronales, une capacité à développer notre intelligence cognitive et émotionnelle ainsi que notre créativité. Comme le résume Baptiste Touvray dans l'article du mensuel Books, l'alternance complexe entre les deux types de sommeil résulte d'un équilibre subtil entre le besoin de conserver des informations anciennes et celui d'en stocker de nouvelles au sein d'un espace de rangement limité. Enfin, à l'instar de nombreux animaux, notamment les oiseaux et les animaux marins, nous savons également maintenir dans le sommeil un hémisphère aux aguets quand nous dormons dans un environnement inhabituel, par exemple, et donc potentiellement dangereux. Dans un autre livre, non encore traduit, « La neuroscience du sommeil », le même Matthew Walker s'est associé à un autre spécialiste de nos nuits, Robert Stigold, pour expliquer les bienfaits du sommeil. L'activité du système de défense immunitaire et l'équilibre hormonal de l'organisme, la santé émotionnelle et psychique, les apprentissages, les processus de mémorisation ou encore l'élimination des déchets toxiques du cerveau, en particulier les protéines responsables d'Alzheimer. Quelques expériences sont édifiantes, celles notamment qui montrent les conséquences d'une nuit blanche sur la mémoire des émotions. Ayant proposé à 26 participants, dont la moitié avait été privée de sommeil la nuit précédente, une série de mots à connotation positive, négative ou neutre, par exemple calme, chagrin ou caillou, ceux qui n'avaient pas dormi avaient beaucoup mieux retenu les mots à caractère négatif. Conclusion, privés de sommeil, nous mémorisons beaucoup plus de souvenirs malheureux qu'heureux, ce qui aboutit à une image biaisée et potentiellement déprimante de la réalité. On sait que les rêves ont été la voie royale de la psychanalyse à ses débuts. À la même époque, Bergson donne une conférence sur le rêve où il mentionne d'ailleurs Freud, aujourd'hui regroupé avec le texte de Stevenson sur les rêves chez Payot et Rivage. Qu'est-ce que dormir ? Le philosophe pose la question sans embâge. Et non sans relever que l'esprit continue à fonctionner pendant le sommeil. Il s'exerce sur des sensations, sur des souvenirs. Et soit qu'il dorme, soit qu'il veille, il combine la sensation avec le souvenir qu'elle appelle. Dans cette tension simultanée de la sensation et de la mémoire, le rêve lâche la bride aux émotions, il est la vie mentale tout entière, moins l'effort de concentration. Bergson insiste sur le rôle des pensées qui ont passé comme des éclairs et que nos songes ramènent, ou des objets que nous avons perçus sans fixer sur eux notre attention à l'état de veille et qui peuplent la vie nocturne. Ceci était très présent dans l'étonnante enquête de Charlotte Berat sur les rêves en Allemagne sous le Troisième Reich. Poêle, lampe à abat-jour, radiateur ou poste de radio qui enregistre non seulement les paroles mais les pensées des rêveurs. Dans un texte hybride, mobile et poétique sur le surréalisme publié récemment dans la petite bibliothèque Payot, Walter Benjamin esquisse une physiologie des trompe-l'œil qui prolifèrent sur la scène des rêves. La face que la chose présente au rêve, écrit-il, c'est le kitsch. Image fantasmatique des choses qui tombent au sol en claquant comme les feuilles d'un livre illustré dépliant. C'est pour déchiffrer les contours du banal comme trompe-l'œil que la psychanalyse a découvert depuis longtemps, que les surréalistes remontent moins la piste de l'âme que celle des choses, en recherchant dans le totem des objets le maquis de l'histoire primitive, dont la toute dernière grimace est le kitsch. Le rêve a sa part de l'histoire, écrit-il. Une chose est sûre, quand on se lève dans la peau de Heinrich von Ofterdingen, le héros éponyme de la nouvelle de Novalis qui fait un rêve de fleurs bleues, c'est forcément qu'on a oublié de se réveiller.